France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique, en direct jusqu'à 20h30. La musique électronique française séduit le monde entier au point où on a donné un nom à cette nouvelle vague, la French Touch. Ce n'est d'ailleurs pas tout nouveau, cette nouvelle vague, car nous en sommes déjà au moins à la troisième, peut-être la quatrième French Touch, qui va de Daft Punk à Gesafelstein, en passant par R, le label Headbanger et Justice, Casius, Laurent Garnier, David Guetta ou encore Étienne de Crécy, que l'on écoute justement pour l'occasion. On a même changé ce soir en direct. Durant ce long week-end de Pâques, on a donc changé notre générique. Ce soir, nous parlons donc de l'exportation de l'électro française et plus largement de l'exportation de la musique française à l'étranger. Marc Tounon est le directeur général du bureau export de la musique et mon invité ce soir. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Fin de week-end à Coachella, fin de week-end au Printemps de Bourges.
Absolument, un grand week-end de musique, deux séquences assez extraordinaires. 11 artistes français à Coachella pour la deuxième année consécutive et de plus en plus haut dans l'affiche.
Également en studio ce soir, le journaliste Olivier Pellerin. Vous avez coécrit le rapport sur les musiques électroniques pour la SACEM. Ça date déjà d'il y a quelques années.
Ça date d'il y a 2 ans et demi.
Mais ça incarne et ça raconte un succès français.
Un succès français sur le territoire français de ces musiques-là.
Et avec notamment des propositions pour que ce soit encore plus successful, on en parlera dans un instant. Avec vous deux, on évoquera, je l'ai dit dans l'actualité de la semaine, le Printemps de Bourges, le festival Coachella, où les Français sont présents en force, on l'a dit, et l'exposition, et encore l'exposition électro à la Philharmonie de Paris, que j'imagine un peu tout le monde ici a vu, notamment vous et Olivier Pellerin, vous y étiez plusieurs fois, je crois.
Ouais, j'y ai passé une bonne partie de la semaine dernière.
Toujours au sommaire de cette émission, 20h, l'invité innovation ce soir avec vous, OS Fest, vous recevez Thierry Volton.
Journaliste qui a consacré une large partie de son œuvre à, disons, travailler sur les crimes des régimes communistes, dont certains ouvrages sont décriés, mais qui publie cette semaine le négationnisme de gauche aux éditions Grasset. Qu'est-ce que ce négationnisme de gauche? Comment existe-t-il sur les réseaux? On en parle avec lui.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir de Julian Assange, dont l'asile politique vient de prendre fin. On le sait, il a été arrêté par la police britannique la semaine dernière et les États-Unis ont demandé son extradition. Et nous serons dans ce club de la presse ce soir avec en direct en studio Amel Guiton de Libération et Elliot Lepers, entrepreneur et fondateur de l'ONG Le Mouvement.ONG. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power en direct ce soir. Cette émission est réalisée par Émilie Valla avec en régie Alexandre Dang, tous ceux qui passent le week-end à la maison de la radio. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, en podcast chaque semaine sur le site de France Culture. Soft Power jusqu'à 20h30 en direct.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Le président de la République Emmanuel Macron a donc remis en personne ce jeudi la Légion d'honneur à Michel Houellebecq à l'Élysée, une cérémonie très commentée. L'écrivain était accompagné pour l'occasion par le chanteur Jean-Louis Aubert, l'ancien président Nicolas Sarkozy ou encore le philosophe Alain Finkielkraut, par ailleurs producteur à France Culture. Pour le président Macron, Michel Houellebecq incarne un romantique qui est en quête de transcendance. Vous avez réinventé le roman français, a dit Emmanuel Macron. Quelques jours plus tôt, un certain Jean-Philippe Domecq avait vertement critiqué ce geste dans une tribune au Monde. Il y disait son dégoût, car Houellebecq est, je cite, un écrivain glauque et réactionnaire. Alors on peut ne pas aimer Houellebecq, mais dénoncer une telle récompense, comme Jean-Philippe Domecq, écrivain des plus mineurs, romancier sans intérêt, essayiste lui-même réactionnaire, est assez désopilant. Houellebecq, qu'on le veuille ou non, est aujourd'hui l'un des plus grands écrivains français et l'un des plus vendus au monde. C'est l'un des symboles du soft power de notre pays. Et sans doute le président, comme l'auraient d'ailleurs fait ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy ou François Hollande, a eu raison de le décorer ainsi. Reste à savoir si Houellebecq devait se prêter à l'exercice. C'est plutôt là, à mon avis, que se situe le problème et que l'écrivain nous a un peu déçus. Comme on dit, la Légion d'honneur, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas, ça ne se porte pas et on peut ajouter, ça ne se remet pas. France Culture 19h06, ce soir nous parlons de musique électronique et plus largement de musique française et de l'exportation de musique française à l'étranger. Trois actualités ce soir pour commencer cette émission, le festival Coachella, le printemps de Bourges et tout de suite l'exposition électro que vous avez vue, comme moi d'ailleurs, à la Philharmonie. Ça a lieu jusqu'au 11 août à la Philharmonie de Paris au parc de la Villette.
Alors je crois que c'est, vous allez me confirmer ça, mais je crois que c'est la première du genre consacrée à cette musique en France, donc rien qu'en cela, c'est une première et c'est à marquer d'une pierre blanche. Alors je l'ai vu le jour de son vernissage, ce qui n'est jamais tout à fait le meilleur moment pour voir une exposition, parce qu'en général ça grouille de monde. On peut noter une vraie volonté de la part de la Philharmonie, mais c'est le cas pour la plupart de leurs expositions ces derniers temps, un vrai travail sur la scénographie qui est très important.
On se croirait en boîte de nuit un petit peu.
Voilà, on est dans une
atmosphère
complètement
tamisée.
Exactement. Alors dans un club où, et c'est ça qu'effectivement, d'ailleurs je crois que les scénographes on revendiquait l'idée qu'en fait, vous n'ayez pas de parcours imposé, on vous donne un casque. Alors ça aussi, c'est aussi très régulier dans les expositions de la Philharmonie. L'idée, c'était d'avoir des gens qui déambulent un peu comme s'ils étaient dans une rave, qui est un petit peu le lieu, l'électro est à la fois né et a vécu. C'est une belle exposition, c'est une exposition qui se veut didactique tout en, du coup on le dit, n'imposant aucun parcours particulier à personne. C'est, je pense, sa grande force. On va aller chercher de l'électro assez pointu, on revient sur le rôle des machines. Il y a un vrai travail, moi j'attendais ça et ça a eu lieu. Il y a un travail aussi pour, vous avez des ateliers, vous pouvez quasiment vous faire un petit peu de musique, vous avez des endroits où vous pouvez orchestrer des sons, etc. Donc tout le côté bidouillage de cette musique est rendu à des néophytes qui, comme moi par exemple, écoutent beaucoup d'électro mais se sont jamais essayés à ce type de pratique. C'est une exposition riche qui en apprendra même à ceux qui pensent connaître un petit peu l'électro, qui en prendra beaucoup parce qu'on est sur une électro assez pointue, mais qui néanmoins a un titre un peu trompeur, parce que même si on vous vend de Kraftwerk, légende, à Daft Punk, il y a un grand absent, je trouve, de cette exposition. Alors voilà, la question c'est, en fouillant peut-être plus, on peut peut-être les voir moins, mais c'est une exposition, et c'est peut-être son rôle d'ailleurs, qui contourne un peu ce qu'on appelle l'EDM, c'est-à-dire l'électro plus commercial, qui est quasiment pas présente dans cette exposition. Or, et on va en parler avec vous, d'un point de vue du soft power, qui ne connaît pas David Guetta? David Guetta n'existe quasiment pas dans cette exposition. Daft Punk, évidemment,
j'ai
oui.
J'ai découvert Blue de Bicep, qu'on écoute à l'instant. Alors, il faut aller mettre son casque à un endroit, tout à coup il y a cette musique Blue de Bicep, c'est un peu de l'électro-dance music, mais il faut la chercher dans un coin. Une réaction peut-être, Olivier Pellerin, de Kraftwerk, jusqu'à Daft Punk sans passer par David Guetta.
Ah ben, je suis très d'accord avec ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ailleurs, parce que c'est une caractéristique des musiques électroniques en France et de ses différents segments. Et une différence avec les États-Unis qui ont tendance, le terme EDM est un terme anglais qui veut dire Electronic Dance Music, et pour les Américains, elles sont toutes les mêmes. Alors que nous, en France, on est les champions des
sous-classements et des querelles des clochers. J'ai lu une interview récemment de Geza Felstein, on parlera sûrement du cas de Geza Felstein, c'est un jeune lyonnais qui a un nom allemand qui est une contraction entre, qui a de grandes ambitions, on va dire. Ses albums s'appellent Aleph Hyperion, donc la première lettre de l'alphabet en hébreu, le nom d'un titan mythologique de l'autre côté. Son nom de scène, Geza Felstein, c'est la contraction d'un terme allemand qui veut dire art total et d'Albert Einstein. Donc déjà, ça vous donne un petit peu ça vous pose le personnage. Et lui, il revendique de ne pas se produire, notamment quand il va ailleurs aux États-Unis, de ne pas se produire dans des lieux d'EDM, mais plutôt de se produire dans des festivals comme Coachella, où il y a des vrais artistes qui font de la vraie musique. Donc, c'est aussi quelque chose que les Français peuvent avoir tendance à entretenir, cette espèce de distinction entre musique commerciale et musique, disons, plus de recherche, plus de travail.
Olivier Pellerin.
Bon, on pourrait dire que Coachella est un lieu où l'EDM se produit. Donc, c'est. Voilà, c'est des querelles sans fin. Alors, juste pour revenir sur un point, et l'exposition de la Philharmonie est fantastique, et d'ailleurs, parce que Jean-Yves Leloup. Et plus que pertinent en la matière, pour preuve, 2 ans avant, il avait déjà fait une exposition sur la musique électronique à la Fondation EDF, qui était une préfiguration et qui avait un côté incroyable. C'est la première fois que dans une exposition, je vois sur des instruments de musique, vous pouvez toucher. Ouais. Donc, vous pouvez jouer des instruments.
Marc Tonon. C'est pas que la première fois, l'exposition Pink Floyd aussi, on pouvait remixer soi-même le tube Monet de Pink Floyd, etc. Donc, c'est devenu un classique de ce genre d'émission. Concernant Coachella, bon, il y avait Agoria, il y avait Petit Biscuit l'année dernière. Moi, j'ai l'habitude de ne pas pratiquer de l'ostracisme, mais je pense que les uns et les autres s'inspirent de tout ce qui existe, de tout ce qui est existé, et je pense que la fusion moi j'ai un des artistes, alors il n'est pas français, certes, il n'était pas français, c'est Avicii, qui est décédé extrêmement tôt, qui est un garçon, qui était un vrai compositeur, au-delà d'être un grand producteur comme Fred Rister, qui est le compositeur de David Guetta, qui travaille avec David Guetta. C'est, ça demande énormément de travail, on le sous-estime souvent, et faire de la musique populaire c'est souvent aussi exigeant, voire plus exigeant, que de faire de la musique pointue.
Exposition électro à la Philharmonie, Philharmonie de Paris donc, qui présente cette exposition d'envergure sur la musique électronique à travers l'exploration de son imaginaire, ses innovations, ses mythologies, ainsi que ses correspondances avec d'autres arts, notamment les arts plastiques. On aime beaucoup les photos de la période un peu, je dirais presque post-Nan Goldin. La scène autour de Daft Punk est très belle, malgré tout. Et puis les pochettes d'albums, etc. Une exposition assez pédagogique, où au fond, on ne comprend pas toujours tout, mais on a envie presque d'acheter un livre à la fin pour essayer de replonger dans cette histoire. C'est jusqu'au 11 août à la Philharmonie de Paris, au parc de la Villette. Marc Tonon, vous êtes directeur général du Bureau Export de la Musique. Dans l'actualité de cette semaine, il y a bien sûr le Printemps de Bourges qui se termine ce soir. La France, évidemment, là c'est nous. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce Printemps de Bourges, édition 2019?
Alors, plus on y était avec toute l'équipe du Bureau Export.
Jusqu'à ce matin, je crois, ou hier.
Jusqu'hier. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu le concert inaugural de l'Orchestre National de Jazz hier soir. Donc c'est assez éclectique. Notre métier, malheureusement, je ne pourrais pas être demain à Londres. Il y a l'ensemble de correspondance qui se produit dans une grande salle mythique classique de Londres. Plus que jamais, émergence, tout registre confondu, sur ce Printemps de Bourges. Énormément de scènes, énormément de découvertes et énormément de pros internationaux qui viennent désormais au Printemps de Bourges également pour découvrir l'émergence française.
Une réaction sur ça, au Printemps de Bourges, quelqu'un, Zoé?
Effectivement, bah alors là, en termes de chiffres, je ne sais plus à combien on est, mais je crois qu'on est à peu près la même chose que les années précédentes, mais il y a plus de pros. Le Printemps de Bourges, c'est effectivement censé être un festival où on découvre des gens.
Oui.
On découvre qui cette année?
Alors là, vous me posez une colle.
Et oui,
il y a tellement de.
En fait, il y a beaucoup de scènes.
Il y a énormément de scènes. Il y a ce qu'on appelle le programme des Inouïs du Printemps de Bourges.
Ça, le Jacques Coeur jusqu'au fin fond des petites salles.
Oui. Et puis les fameux W, le 22 Est et Ouest, qui sont les deux salles qui se jouxtent, sur laquelle depuis 15 heures à peu près chaque jour, dans une esthétique différente, se relaient les artistes. Un artiste termine, le suivant commence. Et de toute façon, ils peuvent pas jouer en même temps puisque les deux salles sont pratiquement concomitantes. Mais c'est un exercice assez physique. De 15h de l'après-midi à peu près, 14-15h, jusqu'à 2-3h du matin. C'est de la musique non-stop, donc il faut être...
Vous ne pouviez pas y être tout le temps.
C'est pas possible.
Avant qu'on parle de Coachella, globalement, et je sais que c'est une question toujours cruciale, l'économie des festivals en France, on sait qu'on est dans des moments assez cruciaux. Je vois hausser les sourcils avec cette complexité. On a de plus en plus de festivals, mais on a des festivals de plus en plus concurrentiels, avec aussi l'arrivée d'un géant qui s'appelle Live Nation, et des moyens parfois compliqués, ou pas des critiques qui consistent à dire que, vu que tous ces festivals sont de plus en plus nombreux et qu'il faut tous qu'ils remplissent leurs salles, et ben qu'on commence à avoir un petit peu des têtes d'affiches partout en même temps avec les mêmes et des identités qui se perdent. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? Parce qu'à la fois, on a intérêt à avoir des gens qui effectivement sont forts et qui existent de manière forte sur les festivals, mais à la fois, il faut qu'on continue à découvrir des gens.
Effectivement, vous avez raison, il y a énormément de festivals et on a une concurrence au-delà de la concurrence française, des pays européens et des pays de l'Est, de l'Europe, qui eux ont moins de contraintes. Je fais référence aux lois Evin. les alcooliers et les cigarettiers ne peuvent pas sponsoriser des festivals en France. Le problème n'existe pas dans les pays de l'Est, donc les artistes internationaux ont tendance à être appâtés par les cachets les plus importants, et les cachets les plus importants sont offerts là-bas. Donc je pense que nos amis promoteurs de festivals ont des contraintes, les capacités des lieux n'augmentent pas, ou très peu. Si on se positionne, on prend un exemple, le festival Weed of Green, avec une proposition artistique et une proposition d'accueil qui est assez exceptionnelle
et originale.
Là, vous avez petit à petit un renouvellement. Mais les festivals qui dorment sur leur laurier sont quelque peu challengés. Donc moi, je pense qu'on va vers un éclatement des festivals et sans doute une redéfinition pour certains d'entre eux de ce qu'ils doivent être, de ce qu'ils veulent être à l'avenir.
Pour terminer dans l'actualité de la semaine, donc Festival Coachella, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais la présence française, on l'a dit, Marc Tonon, vous êtes directeur général du Bureau Export de la Musique, y est très forte. C'est nouveau. Quels sont exactement ces artistes? On a parlé de Gesafelstein. Et peut-être, comment se fait-il qu'un festival comme ça, très loin, dans le sud californien, je crois, s'intéresse autant à notre musique,
hein? Dans le désert, carrément. Moi, je n'y étais pas cette année, mais j'y étais l'année dernière. C'est un festival.
Ça se termine aujourd'hui, je crois.
Ça se termine aujourd'hui. Ce sont deux week-ends, la même programmation, les deux week-ends. C'est extrêmement exigeant pour les artistes et pour le public et pour les pros. On est dans le désert, il fait extrêmement chaud. C'est très bien achalandé à tout point de vue, cela dit, hein. C'est du confort américain.
Très bien, très climatisé, vous voulez dire.
J'irai pas jusque là, mais le lieu est magique. C'est un centre de sport assez huppé. C'est très très agréable. La raison, en fait, c'est que les artistes français, eux, depuis Daft Punk en 2006, ont investi sur Coachella. De Blaise, par exemple, l'année dernière, a considérablement investi. Vous parliez de Live Nation. Le producteur de spectacle de Blaise, c'est Live Nation, qui a consacré, à notre connaissance, plus de 100 000 euros pour proposer.
Et le Bureau Export, on reviendra sur le Bureau Export dans un instant, mais vous aidez du coup certains artistes à se rendre, pour qu'ils se rendent.
Alors,
à Coachella.
On ne fait pas de programmation avec des festivals professionnels. Nous, on essaie d'organiser la programmation dans les festivals B2B, justement, dans les festivals, les grandes messes qui
ont
lieu.
Pour les pros. C'est ce qu'on appelle business to business.
Business to business.
Entre professionnels.
Exactement, il y en a 70 par an dans toutes les esthétiques.
Ça fait déjà beaucoup.
Ça fait déjà beaucoup. Par contre, les festivals pro, là, on estime, et Coachella, en fait, ce qui est très important, c'est que les artistes français aujourd'hui ont atteint un tel degré d'expertise
et de notoriété,
que les programmateurs américains les veulent absolument.
Arnaud Messerman est le directeur général d'AEG en France. AEG, c'est comme justement Live Nation, l'un des principaux tourneurs en France, c'est-à-dire ceux qui font tourner les groupes de rock, de jazz, de variété, mais aussi donc de musique électro. J'ai rencontré Arnaud Messerman au siège d'AEG à Paris il y a quelques jours, juste avant qu'il décolle pour la Californie, précisément, puisque AEG organise le festival Coachella qui lui appartient. Dans cet entretien, il revient sur les trois vagues de la musique électro-française, depuis la techno et la house du début jusqu'à l'EDM, justement, ou Electro Dance Music, en passant par la musique qu'il qualifie de DIY ou Do It Yourself, une électro artisanale que l'on peut faire sans trop de moyens, un peu soi-même chez soi. Et bien sûr, il évoque le festival Coachella, où il se trouve en ce moment même dans la vallée du même nom, dans le sud californien. Et je lui ai demandé, pour commencer, ce qu'était à ses yeux Coachella. Arnaud Messerman.
Coachella, c'est un peu notre joyau sur la couronne. C'est un festival qu'on fait dans le désert californien, à 2 heures au sud de Los Angeles, dans une bourgade qui s'appelle Palm Springs. C'est un festival qui fait 100 000 personnes par jour, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, sur 2 week-ends. Donc 2 fois répéter la même programmation.
Avec une programmation électro forte.
Oui, une programmation qui plaît aux jeunes, donc qui tape essentiellement sur la musique électronique, le hip-hop et la pop.
Quels sont les Français présents à Coachella cette année?
Alors, Gesafelstein, qui est plutôt bien placé sur le dimanche. Polo and Pan, qui est un groupe français qui va jouer sur le vendredi.
Pourquoi l'électro-française, semble-t-il, s'exporte bien?
Je pense qu'il y a une vraie filiation qui s'est créée depuis la French Touch, donc qui remonte au début des années 2000 avec Étienne de Crécy, Alex Goffer, Cassius, Phoenix, R, et puis bien évidemment les Daft Punk, qui ont été un peu la figure de proue du mouvement, d'autant plus que derrière, il y a une continuation de ce mouvement via Headbanger, qui a un peu repris le flambeau de la French Touch, qui a été appelée la French Touch 2.0, et qui a continué cette filiation, étant donné que le patron de Headbanger, Pedro Winter, était le manager des Daft Punk avant. Et d'autant plus que les Daft Punk, ayant ressorti un album en 2010-2011, le dernier, qui a été un carton mondial intersidéral. Donc maintenant, aujourd'hui, on est toujours à la recherche du nouveau Daft Punk à chaque fois qu'on parle de musique électronique française.
Sur la troisième vague, l'électro-française, vous la sentez comment? Elle continue à se diffuser, à être très internationale?
Oui, les projets français aujourd'hui, c'est très footrack, c'est très DIY, on sent que c'est une scène qui est en train de se structurer et d'évoluer. Il y a eu plusieurs époques, hein, donc la French Touch 1.0, c'était ce qu'on appelait vraiment la house et la house filtrée. La French Touch 2.0, on appelait ça la turbine un peu, tout ce qui était Justice et compagnie, où c'était vraiment assez rentre dedans. Et là, sur la French Touch 3.0, on sent quelque chose qui est beaucoup plus éthéré, qui est beaucoup plus proche de la pop. Des gens comme par exemple Fakir ou FKJ ou Louis Hoffman qui ont commencé en faisant tout dans leur chambre, tout seul, et qui ont un son vachement plus, comme diraient les Américains, dreamlike, hein, lo-fi.
On a l'impression que la scène électro-française, comme d'ailleurs la scène électro en général, est très fragmentée. Vous voyez cette scène comme étant une sorte d'association de petits îlots qui se rejoignent?
Ah oui, complètement. On est dans des chapelles qui peuvent refuser de se parler, voire de se haïr à certains points. Des gens qui vont à la concrète n'accepteront jamais d'aller à un concert de DJ Snake, par exemple. C'est des choses qui ne se rejoindront jamais. Et pour le coup, oui, c'est vrai qu'on a plusieurs chapelles. On a des chapelles qui vont être plus dans le DIY et dans le punk, ce genre de choses, où c'est de la techno de squat. Il va y avoir de la techno très intellectuelle, pointue, de la techno historique autour de ce qui a été Détroit, Laurent Garnier, etc. Et il va y avoir l'EDM qui est limite presque de la pop aujourd'hui. Des gens comme Major Lazer sont... Je programme le festival Rock en Seine. Quelqu'un comme Major Lazer est une tête d'affiche le samedi soir, parce qu'ils ont dépassé simplement le cadre de l'électronique, même s'ils viennent de là.
Pour un tourneur, faire des concerts de musique électro, ça a quelle spécificité?
Plusieurs choses. D'avoir un public très jeune, donc ça, il faut prendre en compte. Un public qui peut s'alcooliser et se droguer massivement aussi, donc il faut faire assez attention. C'est beaucoup de stress aussi, parce que c'est souvent des ventes à la dernière minute. On est sur un type de musique qui, en général, peut vendre 50% de la jauge dans la dernière semaine. Donc, on ne sait jamais vraiment où on met les pieds. On le sent, hein, avec l'habitude, mais puis c'est de la nuit, quoi. Donc, c'est des longues heures, c'est une ambiance particulière, quoi. C'est beaucoup plus de responsabilité de faire une date la nuit qu'un simple concert de 20h à 22h.
Pour le tourneur, c'est aussi une organisation différente par rapport à un concert de rock qui se déplace avec ses semi-remorques. C'est presque des concerts avec un seul homme, parfois.
Oui, c'est exactement ça. C'est autant on va avoir pour des groupes de pop ou de rock une actualité qui va être le prétexte à une tournée qui va s'étaler sur un mois et demi. Et comme vous l'avez justement dit, il va y avoir une vraie logistique étant donné qu'il y a beaucoup de personnes sur la route et qu'il va falloir faire attention que quand on est à Bruxelles le vendredi, bah le samedi, on peut pas être à Cracovie. Alors qu'un DJ va pouvoir prendre l'avion, d'aller un point à un autre de manière beaucoup plus légère. Quand vous l'avez le vendredi à Londres, le samedi peut très bien être à Madrid, c'est pas un problème. Soit avec son ordinateur, et pour les puristes encore aujourd'hui, avec ses sacs de vinyle.
France Culture, il est 19h24. Ce soir, nous parlons de l'exportation de la musique française à l'étranger avec Marc Tonon, directeur général du bureau Export de la musique. Olivier Pellerin, journaliste musical, co-auteur du rapport sur les musiques électroniques pour la SACEM. Mes côtés, Zoé Sfez. À l'instant, Gesa Feldstein, dont le nouvel album Hyperion est sorti au début du mois de mars, qui fait cette semaine un passage remarqué à Coachella, on l'a dit, avec une installation scénique imitant l'effet d'un trou noir. Le producteur lyonnais a également profité du festival pour présenter en avant-première le clip assez hypnotique de son titre Blast Off en duo avec Pharrell Williams que l'on écoute à l'instant. Marc Tonon, vous êtes directeur général, je l'ai dit, du Bureau Export de la musique. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer à un auditeur aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le Bureau Export ce qu'est cet ovni dans le paysage des industries culturelles françaises?
Alors, la France a cette spécificité d'accompagner toutes ses disciplines, quelles qu'elles soient. Pour le cinéma, il s'agit de nos collègues d'Unifrance. Le même organisme existe pour la télévision, pour l'export de la télévision, pour l'export de la littérature. En fait, le Bureau Export a été créé en 93, ce qui fait déjà un long moment. Alors, les Américains, les Anglais vous diront qu'ils n'ont pas besoin de Bureau Export, que eux pratiquent l'export des...
Les industries se débrouillent toutes seules.
Exactement. Et c'est pas faux.
Et nous, on a besoin d'une structure?
Je pense qu'on a besoin encore plus que jamais d'une structure aujourd'hui. En fait, notre objet est d'accompagner ce qu'on appelle la filière, donc les artistes et les producteurs de spectacles, les producteurs de disques, les labels, les managers et les artistes qui le souhaitent. On a deux types d'interventions. Évidemment, notre métier, c'est de connaître les marchés. Donc, on a des agents, des collaborateurs répartis sur pas mal de territoires. On a en ce moment des bureaux à Berlin, Londres, New York, mais on en ouvre à Singapour,
Bogota.
Abidjan et à Bogota en septembre.
Bogota d'ailleurs à la place de celui de Sao Paulo, qu'est-ce qui lui est arrivé?
Pourquoi
Brésil?
On est en partenariat, donc le Bureau Export est financé à la fois par la SACEM, ce qu'on appelle les sociétés civiles, Adamis, Pédidam, SCPP, SPPF.
Droit
voisin du droit d'auteur, essentiellement, et par l'État, ministère de la Culture et ministère des Affaires étrangères. Alors pourquoi on
à
a...
À quelle hauteur, juste pour avoir une ordre d'idée?
Notre budget actuel est de 5 millions d'euros, l'État finance à concurrence de 3 millions d'euros, la filière de 2 millions.
Les affaires étrangères, vous l'avez pas dit. Petit.
C'est 200 000, tout petit, mais c'est 300 000 plus des postes mis à disposition. Mais également, les affaires étrangères nous offrent un réseau d'attachés culturels, d'attachés des industries créatives et culturelles qui nous aident beaucoup. On a créé il y a un peu moins de 2 ans des playlists sous la marque Watt de France, qui sont en gros la carte d'identité des artistes français, quelle que soit leur esthétique, sur les plateformes de streaming. Et en fait, les attachés culturels, les attachés audiovisuels nous aident. On monte en ce moment une opération à Singapour, dans fin juin environ, avec les plateformes locales, puisqu'il existe des plateformes, il n'existe pas que Spotify, Apple, Deezer, etc. Dans chaque pays, et a fortiori ce genre de pays, il y a des plateformes qui sont spécifiques aux pays en question.
Donc le Bureau Export, c'est au fond, on pourrait le définir comme étant un bureau un peu mixte, à la fois public, ministère de la Culture, ministère des Affaires étrangères, et par les sociétés elles-mêmes, c'est-à-dire donc entre la filière, avec des adhérents d'une certaine manière.
Exactement.
Qui vous financent, et que vous aidez à s'exporter.
Oui, alors l'objet il est très clair, hein, c'est pas de faire du soft power pour le coup, pardonnez-moi, mais c'est de vendre.
Mais le soft power ça vend aussi.
Oui, mais mon intime conviction c'est que pour que le soft power puisse exister, il faut d'abord que les artistes soient powerful, qu'ils aient un impact. Et nous, notre job c'est d'aider les producteurs à faire en sorte que leurs artistes puissent avoir un impact.
Deux se nourrissent, vous travaillez avec l'Institut français aussi, vous l'avez dit là.
Oui, on travaille avec l'Institut français sur des missions légèrement différentes, c'est compliqué de rentrer dans les détails, mais donc nous disposons d'une équipe d'une trentaine de personnes, mais surtout on travaille au contact des 600 professionnels. On a 350 professionnels qui sont adhérents du Bureau Export, qui évoluent dans le champ des musiques actuelles, donc ça va de l'électro au rock, chanson, etc. 150 qui évoluent dans le champ du jazz, jazz, world, et puis 150 dans le champ des musiques classiques. Donc il faut trouver une réponse adaptée à chacune des problématiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le streaming, tout a changé en matière d'export. Auparavant, vous deviez trouver dans chacun des territoires et répéter l'opération dans chacun des territoires un partenaire, un distributeur qui sorte un disque. Rien n'existait sans qu'un disque ne soit sorti physiquement. Aujourd'hui, en fait, comme dit notre homologue irlandaise très justement, every release is a global release. Donc, dès que vous avez un titre à disposition sur la moindre plateforme, il est disponible partout dans le monde. Et ce que ça vous permet, c'est d'analyser les données que remontent les plateformes pour pouvoir géocaliser, le cas échéant, une action potentielle. Petite anecdote à ce sujet, l'année dernière, je rencontre Jean-Michel Jarre et ses deux managers à Coachella, justement, qui revenaient de Santiago de Chili. Pourquoi Santiago de Chili? Simplement parce qu'en analysant leur data, ils avaient compris qu'il y avait un public, que Santiago était la troisième ou la quatrième ville dans laquelle il y avait plus d'auditeurs. Donc ils ont appelé leur agent américain en disant, est-ce que vous pouvez me trouver une date à Santiago? Et Ce qui est assez étonnant, c'est que le même système fonctionne. Tous les jeunes artistes d'électro et de rap maîtrisent les réseaux sociaux de manière extraordinaire. C'est plus compliqué pour les artistes qui sont établis depuis un moment. Et notre job, c'est de faire en sorte que tous les artistes comprennent à quel point ces outils peuvent être intéressants et facilitateurs pour eux.
Vous aidez et vous travaillez pour qui concrètement? Et qu'est-ce que vous pouvez leur offrir? Vous travaillez d'abord pour des musiciens, des groupes, d'abord pour des labels?
Alors, on rencontre... D'abord, l'entourage des artistes. Donc, ce sont soit des producteurs de disques, soit des producteurs de spectacles, soit des éditeurs de musique, selon le stade de développement auquel ils se trouvent. La première action, c'est le diagnostic, c'est se rencontrer.
La connaissance du marché.
Mais d'abord, la connaissance de l'artiste. On a des experts chez nous qui sont issus de chacun des métiers, qui connaissent les marchés, qui rayonnent sur les 70 festivals pro dont on parlait tout à l'heure, qui sont passionnés par...
Vous êtes 30, c'est ça, une trentaine?
Trentaine de personnes à date. On va...
Dans des locaux à la Bastille, très beau d'ailleurs.
Merci. Dans un très très chouette endroit. On est extrêmement mobile, on était 5 ou 6 la semaine dernière... au printemps de Bourges. Les collègues seront 4 à Brême à partir de mercredi pour un festival pro qui s'appelle Jazz Ahead, où là tout le monde du jazz se rencontre. Dans un mois, il y a Classical Next à Rotterdam et ainsi de suite. L'année est ponctuée de ces rendez-vous. Et par ailleurs, chaque fois qu'une possibilité, moi je suis allé, j'ai accompagné deux journalistes à Madrid voir le concert de Zaz parce que je voulais vivre l'expérience Zaz à Madrid. Sur le papier, ça a l'air abstrait. Là, vous vous rendez compte qu'il y a 9000 personnes qui apprennent le français grâce à Zaz parce que, et là, alors ce sont souvent des petits miracles, des concours de circonstances, mais qui sont extrêmement bien exploités par les artistes et par les entourages. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est extrêmement contraignant. Ayant une expérience de label et de maison de disque depuis très très longtemps, je peux vous dire que les artistes qui s'engagent à l'export déploient une énergie considérable. C'est repartir à zéro dans des conditions très compliquées, dans des tourbus, etc. C'est un vrai travail, un vrai engagement.
De Wide Awake qui est sorti le 20 février de l'artiste français Petit Biscuit. On a les chiffres qui viennent d'être plus ou moins confirmés de l'exportation de la musique française à l'international. C'est les chiffres 2017, il y a toujours un petit peu de retard. C'est quoi les grandes tendances selon vous de l'exportation de la musique française?
Alors, ce à quoi on assiste, c'est une explosion du nombre de streams et du nombre de certifications. Vous savez qu'il y a avant il y avait des disques d'or, on a trouvé des équivalences, je ne rentre pas dans le détail, c'est très complexe et mathématique.
Du streaming. Hein, donc.
Voilà. Donc on a des équivalences. Là, cette année, on annonce 26 albums. J'ai plus les chiffres sous les yeux. Et,
26 albums qui auraient donc réussi à se...
Absolument. Alors évidemment, au premier rang desquels on trouve le... je l'ai ici, voilà. Les 26, au premier rang desquels, Tess Cadet, qui est cet artiste, qui est un DJ français, qui a généré 2 milliards de streams essentiellement en Asie. Alors, c'est aussi là un petit miracle, un petit concours de circonstances, qu'on peut expliquer. Mais vous avez David Guetta, évidemment, Petit Biscuit, David Guetta encore, Offenbach, Jen, qui était à Coachella. Ensuite on a un nombre croissant, je pense que cette année on va être à environ 8 milliards de streams générés par des artistes français certifiés, donc ça veut dire que vous avez tous les artistes qui sont un peu en dessous du radar, donc le marché est croissant, ce qui est extraordinaire. On constate que en Angleterre le jazz est en train de petit à petit trouver sa place sur les plateformes de streaming également. Moi je suis persuadé qu'à terme la musique classique va y arriver également. Puis ensuite vous avez 7000 concerts d'artistes français l'année dernière dans le monde, contre environ 3 à 4 000 l'année précédente.
Donc ça veut dire qu'on existe par les ventes, mais aussi par l'écoute, par le concert.
Oui, on a un artiste signé en France qui s'appelle David Esposito qui a écrit le premier single d'Andreas Bocelli. Ça aussi, c'est très très important. Les Anglais travaillent beaucoup leur soft power en écrivant pour les artistes chinois ou coréens, par exemple. C'est aussi une manière de s'exporter que de placer des bouts de copyright sur des œuvres interprétées par des artistes du monde entier. Histoire trop bas, téléphone.
incarnation de cette nouvelle vague dite 3.0, je ne sais pas si c'est un grand sens, de l'électro française. Le duo parisien Polo & Pan mélange musique électronique, pop et des sonorités plus exotiques. Leur album Caravelle, sorti en 2017, avait reçu un excellent accueil critique. Ils avaient connu un premier succès dès 2016 avec le titre qu'on écoute à l'instant, Canopé, Polo & Pan. Avec nous en studio ce soir, Olivier Pellerin, vous êtes journaliste musical. Vous aviez fait il y a quelques temps, donc 2 ans à peu près, un rapport qu'on a lu sur les musiques électroniques pour la SACEM. Et alors, quand on regarde ce rapport dans un certain nombre de ses détails, on observe d'abord que la musique électronique, c'est quoi, 17%, vous dites, à peu près, du marché des musiques actuelles.
À peu près. Avec beaucoup du chiffre d'affaires de ces musiques électroniques, ça représentait, quand on l'a publié il y a 2 ans, 416 millions d'euros. Je pense que ça n'a pas énormément évolué, ça a dû croître de la même manière que l'économie croît. C'est essentiellement représenté par le live, c'est-à-dire que c'est des musiques qui se jouent sur les festivals et dans les clubs, et c'est de là qu'elles tirent leurs revenus.
D'abord les clubs, les discothèques, ensuite les concerts, les festivals.
Et les festivals, ouais.
71% du secteur pour les clubs, 11% du secteur pour les festivals, à peu près, c'est ce que vous...
Voilà, c'est les chiffres qu'on avait calculé à ce moment-là.
Et là, la particularité, c'est que le troisième pôle, si on peut dire, des ressources du secteur, c'est justement l'exportation.
Bah oui, parce que, je pense que Marc Tonon ne me contredira pas, il y a une facilité à exporter. Vous venez de parler de Zaz, mais moins il y a de paroles en français et plus un public planétaire est capable de recevoir la musique.
Alors parlons de cette question tout de suite. Ouais. Le français,
je sais qu'il y a Aya Nakamura, qu'il y a plein de langues françaises qui s'exportent bien en ce moment, mais a priori, une musique instrumentale n'a plus de nationalité, donc peut se vendre plus facilement.
Donc oui. Quand il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chanteurs, mais il y a plus de succès, Marc Tonon.
Le paradoxe de la période qu'on vit en ce moment, c'est que les marchés locaux, le marché mondial, les artistes français réalisent sur Spotify, qui est quand même la plateforme numéro 1, 200 millions d'utilisateurs versus 60 millions Apple, les artistes français réalisent 53% de leurs streams hors France. Donc ça veut dire que dans chaque pays, il y a des...
Alors ça s'appelle... C'est une moyenne, d'accord.
C'est une moyenne, avec effectivement de grandes disparités, mais au même titre que la musique brésilienne a été extrêmement en vogue à un moment, le rap français, par exemple, ne connaît pas de frontières. Gims, il y a quelques temps, MHD...
Gros succès en Italie, par exemple.
Oui, au Danemark également, en Allemagne. MHD également, donc c'est assez paradoxal. Je vous disais, le Zaz, visiblement en Allemagne, c'est un vecteur de déploiement de la langue française.
Olivier Pellerin, est-ce que le marché en France, le marché français, est-ce que vous le voyez, il a une taille et des caractéristiques propres depuis un moment, mais est-ce que vous le voyez changer de manière significative?
Ah ben forcément, parce qu'il faut se rappeler que les musiques électroniques sont... L'histoire des musiques électroniques avec... La France n'est pas née dans le bonheur et la bonne humeur, et ça s'est fait quand même par un mauvais accueil et une répression des raves qui étaient vus comme une musique tapageuse et avec des substances illicites et réduite à ça. Donc c'était quand même une culture très vivace qui a pris l'habitude de se développer hors des réseaux habituels de la culture en France, donc qui n'est encore pas très compatible ou pas très habitué à s'inscrire dans tout ce que la France sait faire pour soutenir sa culture. Donc ça se fait petit à petit et c'est là que c'est en train d'évoluer.
Donc un peu outsider à l'origine.
Outsider et en même temps très avec beaucoup de succès, donc qui produit, qui représente un chiffre d'affaires, mais qui n'est pas toujours très bien branché avec tous les outils qu'on a en France. Et alors il y a à la fois toutes nos institutions qui savent pas trop comment aborder ces musiques-là et toutes ces musiques-là qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'on peut leur offrir ou leur proposer. Et tout le monde se regarde un peu, tout le monde se tourne
aujourd'hui,
un peu. C'est en train de changer, c'est pour ça que ça évolue.
On a quand même l'impression que beaucoup d'artistes sont mondialement célèbres, d'où des difficultés, j'imagine, même pour qu'ils se produisent en France, étant donné l'inflation d'écoute. Et...
Alors, la musique électronique, on en parlait un peu tout à l'heure quand on parlait de l'acceptation américaine, l'EDM, donc les Américains, pour eux, toute musique électronique est une musique électronique. En France, on aime bien les chapelles et l'EDM, c'est en fait ce qu'on appelle c'est la dance music. Donc la musique
la
commerciale, populaire.
Ouais.
Et il y a la house et la techno qui sont des musiques un peu pour une histoire plus longue et plus marquée, avec des caractéristiques plus marquées. Et c'est deux marchés différents, en fait. C'est pas juste des distinctions artistiques. C'est-à-dire que l'EDM, on peut citer David Guetta pour les Français. On parlait d'Avicii, tout ça, tout à l'heure. Ce sont des gros DJ qui jouent devant des foules gigantesques et qui sont très chers. Et vous, Marc Tonon, tout à l'heure parlait de la différence avec les festivals étrangers qui sont financés par des grands alcooliers ou des marques de tabac, etc.
Ce qu'on ne peut pas faire en France,
on n'a pas la taille critique pour accueillir ces artistes-là. David Guetta doit jouer une fois par an, une fois tous les deux ans, dans une aréna française. Mais David Guetta n'est pas sur les festivals. Et je pense pas que ça soit une question d'esthétique. Je pense qu'il y a des programmateurs français qui programmeraient David Guetta. Mais oui, on n'a pas les tailles critiques.
Donc en fait, moyen, donc.
On est en France sur des cachets qui sont... J'ai publié un article dans Libération récemment qui, en parlant avec les professionnels, les petits cachets des petits artistes qui commencent tournent autour d'à peu près 2000 euros. Les cachets des artistes moyens qui commencent à avoir de l'exposition dont on parle seraient autour de 4-5 000 euros. Tout ça, c'est des fourchettes, hein, parce que avoir des prix précis, c'est évidemment toujours très difficile. Et les gros artistes seraient autour de 15 000 euros. Avec des stars qui prendraient 4-5 fois plus sur les gros festivals.
Je pense qu'on ne vous a pas tout dit.
Et voilà, quand j'ai publié cet article, ça représente une majorité des artistes français qui animent les clubs et du week-end en France. Et le rédacteur en chef de DJ Magazine, qui est un magazine français, m'a dit « tu n'as pas les bonnes informations, les gros artistes d'EDM, les David Guetta & Co, c'est du 250 000, c'est du 500 000 euros ». Oui, mais en France, ils jouent une ou deux fois par an. Et les Avicii, les Steve Aoki, tous ces artistes-là ne viennent jamais en France. Et les festivals gigantesques de musique électronique comme Tomorrowland en Hollande ou d'autres n'ont pas leur équivalent en France. Il y a un énorme festival dans le sud de la France qui s'appelle Electro Beach Festival. Mais à part ça, les artistes dont on est très fiers, Arnaud Rebottini, Chloé, etc., et qui jouent en France, à l'étranger, dans les clubs, sont sur une taille inférieure, sur une culture différente qui est moins et qui est beaucoup moins joué en médias. C'est-à-dire que David Guetta est joué par toutes les radios du monde. Et il est joué dans toutes les discothèques du monde. Chloé, Arnaud Rebottini, etc. sont joués dans des discothèques spécialisées et assez peu en radio.
Donc, c'est un paradoxe en fait. La France, moi j'ai assisté au premier concert des Chemical Brothers qui était davantage, ils se produisent en France plus que dans des grandes villes mondiales. Ça n'existait absolument pas du tout aux États-Unis. Et comme vous le soulignez justement, la musique commerciale de dance music en France est peu prisée des médias traditionnels.
Et puis parce qu'on reste en France et qu'on est content d'avoir... On est français, on est le pays des lumières, on est le pays de la mode, de la bonne nourriture, et on est aussi le pays de l'exigence et presque de la mauvaise langue. Donc on veut ce qu'il y a de meilleur, donc on a tendance à regarder un peu de haut ce qui a le plus de succès, ce qui est le plus commercial. C'est un vrai trait français.
Ça a été le gros malentendu, en tout cas le désamour avec Daft Punk aussi.
Il y a beaucoup d'artistes...
Je crois, Laurent Garnier qui garde des cachets assez bas pour pouvoir continuer à jouer en France et qui a le
même tourneur depuis ses débuts. Oui, Laurent Garnier est un OVNI, il est son manager et lui travaille
à deux
uniquement et il s'adapte. Laurent Garnier qui a un historique de 30 ans dans les musiques électroniques dans le monde les connaît par cœur et donc il adapte ses prestations, enfin pas ses prestations mais en tout cas ses prétentions à la jauge du lieu dans lequel il est. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, pour en avoir discuté avec son manager, qu'évidemment, il fait des efforts, il monte ses prix, etc. Mais il a à cœur de respecter cette culture qui l'a fait grandir et qui n'est pas toujours aussi solide et aussi florissante que ce qu'on voudrait croire.
C'est un vrai sage, Laurent. Il est là depuis très très longtemps. Il a décidé, de travailler, pour en avoir discuté avec lui, un week-end sur deux, et puis de consacrer du temps à sa famille, à la création, etc. Lui a un historique qui lui permet de gérer sa carrière. Lorsque vous êtes en démarrage de carrière, vous devez absolument enfoncer toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Ce sont des investissements. Je parlais de Blaise tout à l'heure, à plus de 100 000 euros. Justice, ça a été un investissement sur la scène qui a été extraordinaire. Daft Punk, avec cet album que moi je considère comme probablement l'album le plus, Random Access Memories, l'album le plus important des années 2000, n'a pas pu tourner parce que je pense que c'était techniquement infaisable.
Et là, on parle d'artistes, on est en radio, on cite des noms, mais il faut faire attention aux arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire que là, on cite des noms très respectables et qu'il est très agréable d'aller écouter, mais il y a tous les artistes qui commencent à se faire un nom dans une petite sphère et dont on, si je vous cite, une DJ aujourd'hui qui s'appelle AZF, ça va parler à personne ce soir sur France Culture. Pourtant, elle est en train de monter, elle joue un peu partout en France et dans le monde, et elle n'est pas à des niveaux de cachet qui sont les énormes niveaux qu'on aime à colporter parce que ça fait bien sur le soft power d'une certaine manière.
Alors pour que ça parle à tout le monde, voilà un autre exemple de soft power pour le coup français. Le disque s'appelle O Gringo, c'est pas très français. Bernard Lavilliers s'allait davantage avec le Quatuor Eben.
« c'était à Rio Janeiro. Une ampoule jaune pendait du plafond. Elle me demandait avec son regard étrange, tu pars demain. Elle a fait glisser sa bague autour de ses doigts et posé ses deux mains tout près de mon cœur et demandé des nouvelles d'ailleurs du monde entier. Son gringo quiero fala brasileiro.
Ela é um gringo que não fala brasileiro.
Meu teto é o céu, meu leite é o mar.
France Culture, 19h46.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
On est en direct ce soir à 19h46, France Culture. Vous êtes dans Soft Power, le magazine des industries créatives, culturelles et du numérique de France Culture. Marc Tonnant est directeur général du Bureau Export de la Musique. Il est mon invité ce soir. À ses côtés, face à lui, Olivier Pellerin, journaliste musical, et à mes côtés, Zoé Sfez. Un mot avant de peut-être de revenir sur la musique elle-même. On a parlé tout à l'heure du Bureau Export. Il y a des évolutions en cours. Le ministre de la Culture a confirmé. C'est un long débat. C'est une sorte de serpent de mer, mais qui peut-être va finir par voir le jour. La création d'un Conseil National de la Musique, une sorte de
Centre National de
musique. Centre National de Musique, une sorte de CNC, de Centre National du Cinéma pour la musique, dans lequel vous pourriez le cas échéant avec lequel vous pourriez être fondu. Quelle est votre position sur ce sujet? Il y a aussi le Centre National des Variétés, il y a aussi l'IRMA, peut-être l'Observatoire de la Musique. Bref, c'est un peu une usine à gaz, on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Non, ce n'est pas une usine à gaz. Il se trouve que moi, je fais partie du comité de pilotage opérationnel, c'est comme ça que ça se dit. On est une dizaine de personnes. Ouais, c'est des grands mots, il y a 25 acronymes. Mais concrètement, en fait, le CNV, c'est le Centre National des Variétés qui recueille une partie de la taxe que les spectateurs paye sur les billets de concert et qui octroie des aides aux producteurs de spectacles pour leur permettre d'investir. Et Dieu sait si leur situation est compliquée depuis les attentats, les contraintes en matière de sécurité par exemple sont énormes, donc là il y a un réel enjeu pour eux. Le FCM, le Fonds pour la Création Musicale, qui octroie des aides, comme son nom l'indique, pour les labels ou pour les créateurs essentiellement et les artistes et les structures qui les accompagnent. L'IRMA qui est un centre de ressources qui analyse pas mal de données. Et puis le Bureau Export, il se trouve qu'on se connaît tous, qu'on se croise. Moi je pense que ça aurait un sens.
Vous serez plus forts tous ensemble ou...
Je pense qu'on sera plus forts tous ensemble.
Alors, mais chacun veut devenir le grand Manitou.
Très franchement, on bosse les uns les autres. Alors on a des petits groupes de travail sur le système d'information, d'autres sur les locaux. Sur les systèmes d'aide, etc. On essaie d'établir quelles sont les meilleures pratiques des uns et des autres et de faire en sorte que ça fonctionne le mieux.
Et si ça voit le jour un jour, puisque c'est une proposition, je pense qu'elle remonte à au moins François Hollande et peut-être même avant.
Même avant.
1er janvier 2020, c'est crédible pour vous?
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le ministre de la Culture, Franck Riester, est très très impliqué sur le sujet. J'ai eu la chance de faire partie avec lui, avec Daniel Colling, qui était
l'ancien fondateur du Printemps de Bourges.
Avec Alain Chamfort pour d'un groupe de travail il y a 7 ans qui devait mettre en place ce Centre National de la Musique en 2011-2012. Il se trouve que pour des raisons d'alternance politique, n'ayons pas peur des mots.
C'était un magnifique lapsus.
Merci. Il se trouve que ce Centre National de la Musique n'a pas pu voir le jour à ce moment-là. Peut-être aussi l'ambition était-elle trop importante financièrement à l'époque.
Parce qu'il y a une question de budget quand même, toujours à chaque fois. Tout le monde est d'accord pour que ce centre existe, après tout le monde voudrait qu'il ait beaucoup d'argent. Tout le monde parmi vous.
Oui, bien sûr. Non, mais parmi ceux qui en ont besoin. Je rappelle que le disque a connu une crise profonde. Je suis extrêmement bien placé pour en parler. J'ai eu pendant une vingtaine d'années un label qui n'a pas résisté à la crise et à la transformation du disque. Donc, des mécanismes existent, crédit d'impôt, etc., qui sont structurants, mais qui ne sont pas suffisants. Alors, à quelle hauteur, jusqu'où faut-il les ajuster? Ça, les discussions sont en cours. Moi, je suis assez confiant.
Marc Tonnant, en tout cas, ce soir, annonce la création du Centre National de la Musique qui va être créé n'ayant
pas peur des morts, pardon, des mots. Zoé Sfez.
Une question justement, et parmi les craintes de ce centre national de la musique, enfin parmi les envies, on parlait tout à l'heure de la question de la langue, et puis aussi on peut parler de la question du genre. Vous avez évoqué la musique classique et le jazz, deux secteurs où historiquement et encore aujourd'hui, qui sont des secteurs où le disque avait une place très importante, il a toujours une place très importante. On sait que par exemple la musique classique a beaucoup de mal avec le streaming pour des questions de qualité, pour des questions d'indexation. C'est très très compliqué de trouver la bonne version de la Traviata que vous voulez, puis vous savez, vous ne pourrez jamais retrouver le bon air parce qu'avant il y aura le nom de l'opéra, puis le nom du metteur en scène,
puis le bon compositeur, enfin le compositeur ça va, mais par contre le soliste, l'orchestre, c'est dur.
Très difficile. C'est puisque vous l'avez dit, vous n'êtes pas là pour faire du rayonnement de la culture française, mais vous êtes essentiellement là aussi pour vendre des disques. Comment il va ce secteur-là, dans un secteur où on a des très bons musiciens classiques, on a des très bons musiciens de jazz en France, on a quelques stars dans l'opéra notamment, même si elles sont malades quand elles viennent chanter en France comme Roberto Alagna, mais comment ça marche?
Écoutez, je vais me permettre d'en parler par le prisme du Bureau Export. Effectivement, le monde des labels en discographique, en musique classique a été fondamentalement bouleversé. Hormis Warner et un tout petit peu... Donc Warner a une filiale anglaise qui produit pas mal d'artistes français. Universal et Sony produisent quelques artistes également, mais la plupart des artistes classiques français sont signés sur des labels indépendants. Harmonia Mundi qui a été racheté par Piaz, Plate Against Sam, qui est paradoxalement un label indépendant extrêmement pointu de musique
rock
au départ. Naïve, qui avait un fort département classique, a été acheté par... absorbé par Believe, qui est un distributeur électronique. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est un peu la même chose que dans les autres musiques. Les artistes finissent par devenir leurs propres producteurs de contenu et utilisent les services de maisons de disques plutôt dans un second temps pour les aider à faire de la diffusion, de la promotion et du marketing.
Et comme du service, quoi. Presque.
Comme du service. C'est le fameux modèle de l'artist services, du label services, et ce modèle s'applique à toutes les esthétiques. Vous parliez de la difficulté d'indexation, certes. Mais encore une fois, le streaming a 12 ans maximum. Donc moi, je suis persuadé que des solutions... On a une start-up, on a Qobuz, enfin qui est plus tout à fait une start-up, mais qui a énormément de mal.
Qui
essaie de proposer,
qui souffre un peu.
Qui souffre énormément. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a Idagio en Allemagne. Il va y avoir forcément, à mesure que le marché va se reconstituer, et il va se reconstituer, si vous voulez écouter aujourd'hui, essayez d'acheter un CD, un lecteur CD. Si vous achetez une voiture, vous ne pouvez pas avoir de voiture avec le lecteur CD. Donc si vous voulez écouter de la musique classique, à un moment, vous allez devoir passer sur le streaming aussi. Et moi, je pense que ça va créer des opportunités et des initiatives qui vont permettre au marché de se développer.
On a beaucoup parlé de Coachella, on a parlé donc des États-Unis et on a évoqué l'Amérique latine avec le bureau que vous allez ouvrir à Bogota. On n'a pas cité l'Afrique, énorme marché pour les artistes francophones. Quelle est la stratégie du Bureau Export?
Alors, l'Afrique, c'est un marché qui...
plus qu'émergent.
Oui, alors qui est un marché paradoxal. C'est-à-dire que Sony et Universal ont ouvert des bureaux à Abidjan. Les plateformes de streaming, elles, sont davantage en Afrique du Sud parce que l'Afrique anglophone est davantage de business. Ce que nous disent tous nos contacts là-bas, c'est que la data est très chère en Afrique. Vous n'avez pas d'abonnement mensuel avec un forfait global. Vous devez acheter la data en fonction du poids de data que vous consommez. Et tant que ce problème...
Les data, c'est-à-dire les données sur votre téléphone portable.
Exactement, l'accès. Puisqu'on est dans un modèle d'accès, avoir accès à 20 ou 100 gigas, ça coûte une somme que la plupart des utilisateurs ne peuvent pas s'offrir en Afrique, le marché va être freiné dans son développement. La plupart des spécialistes qu'on a consultés en Afrique nous prédisent que le marché décollera vraiment dans 2 à 3 ans. Pour autant, le modèle d'usage change tout. Auparavant, l'Afrique était un continent où le piratage sévissait. Aujourd'hui, encore une fois, et on l'a vécu, y compris en France, le streaming est un modèle à ce point pratique qu'il permet d'éradiquer en partie le piratage.
Pour terminer cette émission, peut-être quelques considérations sur ce que vous comprenez des évolutions de l'industrie de la musique avec le streaming, notamment aujourd'hui il faut plus forcément sortir un album mais être présent sur une playlist par exemple. Quelles sont les évolutions qui vous paraissent significatives?
Alors, en fait, ce qui est très clair, c'est que pour commencer à exister, il faut poser les pierres. Si vous allez chez Spotify, YouTube ou Deezer, les techniciens de ces plateformes vous expliquent aux artistes que le bon rythme, c'est de sortir de manière régulière du contenu, une fois par mois, parfois une fois tous les 15 jours, du contenu sans image. Et une fois que l'artiste, en ayant travaillé ses réseaux sociaux, parvient à un seuil critique de notoriété, éventuellement il est en mesure de sortir un album. En fait, ce n'est rien de différent que ce qui se passait dans les années 60, où vous sortiez des singles, et puis quand il y avait assez de singles, on était en mesure de sortir. Et là, il s'est passé quelque chose le mois dernier d'assez étonnant. Vous avez sans doute entendu parler de Billie Eilish, cette jeune artiste de 16 ans. Apple Music a communiqué abondamment sur le fait que eux croyaient au format album. Ils ont travaillé avec l'artiste, avec son entourage, qui est Universal Music, pour faire en sorte que cet album soit considéré comme une entité artistique. Totalement.
Et puis on a PNL qui est un très bon contre-exemple. Je vous ai vu commenter plusieurs fois la sortie donc de cet album.
Je n'ai pas le droit d'en parler. Je me suis fait gronder par le manager.
Mais non, c'est pas vrai.
Je vous jure.
Mais pourquoi ça?
Mais sur l'économie de la rareté, ils ont quand même réinventé la rareté absolue de tout.
On rappelle qu'on est sur du rap, tourné comme une vidéo, tourné.
Les gens qui ne font pas d'interview
à la Tour Eiffel.
Voilà.
Comme un certain Daft Punk à leur époque.
À leur époque. Ouais. Ouais. Et donc
c'était pas tout à fait la même.
Non, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est la musique d'aujourd'hui. C'est donc une proposition.
Vous ne pouvez pas en parler.
Je peux pas en parler. Mm-hmm. Il me donne très peu d'infos, mais donc je pense que c'est leur souhait que je respecte. Donc...
Et comme Marc Tonon, citoyen français, je peux peut-être parler sans.
Non, mais ce dont je suis convaincu, c'est que l'inventivité est la clé de tout en matière artistique. Et si vous avez une proposition musicale forte, et ce que je trouve vraiment formidable dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quelle que soit l'esthétique, soit vous êtes très formaté et très commercial, mais là il faut être au niveau de la compétition mondiale, hein, c'est Beyoncé,
il faut réussir aussi.
Ce que Guetta et Fred Rister font très bien, soit vous avez une proposition qui est très alternative, c'est De Blaise, mine de rien, qui est une musique assez exigeante, c'est la même chose en classique, c'est Samy Thiébaud en jazz que je crois on va écouter, et alors là vous avez aussi une possibilité de démarrer, de vous constituer un public de base qui devient mondial et qui vous permet ensuite de rayonner. Votre marché n'est plus simplement local.
Olivier Pellerin, vous citiez Daft Punk, c'est évidemment pas tout récent, mais il n'y a pas d'album d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Mais ça a été quoi le modèle au fond Daft Punk qui continue à marquer un certain nombre d'artistes puisque ça a été très original, y compris dans un rapport.
Je pense que c'est un modèle de
compliqué à la SACEM et compliqué aussi, mais même dans le marketing. De garder ses data pour soi, etc.
Ouais, enfin, je pense que c'est un modèle très unique et très, très pop musique qui dépend. En tout cas, ça va bien au-delà de la musique électronique et je pense que c'est pas forcément un modèle pour les musiciens de musique électronique parce que c'est pas reproductible, à mon avis. Et quand je disais tout à l'heure que PNL est peut-être un nouveau succès à la Daft Punk, c'est-à-dire que les succès musicaux, bien souvent, on est incapable de les prédire. Mmh. Sinon, tout le monde les reproduirait, ces succès incroyables.
Ça reste une industrie, mais créative.
De prototype.
C'est pas de la science, ça reste de l'humain, de la création. Mmh. Mais je pense pas que Daft Punk, du coup, puisse être un modèle pour des musiciens aujourd'hui. Ils ont fait un truc qui est tellement unique que ça serait difficile de le mettre sur un papier et de l'apprendre dans des écoles en disant, voilà, appliquez cette martingale et vous ferez du Daft Punk. Et je pense que PNL, qui arrive avec un succès sur lequel on peut faire quelques comparaisons, à quelque chose de complètement unique, sur lequel on est incapable de mettre le doigt, dont vous avez même pas le droit de parler, d'ailleurs. Mais, et donc, on est obligé... On est spectateur, on regarde. Après,
on peut parler de tout. Hein. On est libre ici.
Mais je pense, bien malin, celui qui serait capable de décortiquer le succès de PNL et de dire où ça va aller et pourquoi déjà on en est là, en fait.
Une petite question, justement. Vous le disiez, vous parliez des data, vous parliez des données, qui sont des choses qui, au moment où Daft Punk a explosé dans les années 2000, étaient quand même beaucoup, beaucoup moins importantes. On a parlé de Christine and the Queens, anciennement Christine and the Queens, qui a fait un deuxième album après un succès énorme en France, en Angleterre, un deuxième album dans deux langues. Ça rejoint la question de la langue, et qui n'a pas si bien marché cet album en France, alors qu'il a l'air de mieux marcher aux États-Unis. Par exemple, concrètement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est visé et qu'est-ce qui fonctionne ?
Je pense qu'elle a surtout une proposition artistique. Elle avait envie de se renouveler. Donc le premier album, elle l'avait enregistré d'abord en français, puis elle a considérablement investi avec Because, sa maison de disque, avec Corrida, son tourneur. Encore une fois, on a l'impression que tout est industrialisé. En fait, il y a une démarche artistique. Et elle avait sans doute de ce son-là à ce moment-là. Et puis elle l'a mis à disposition. Il se trouve qu'il y a d'autres pays que la France qui ont davantage réagi.
Tout sa présence cette semaine à Coachella, au moins au premier concert, puisqu'elle a dû annuler. On l'a appris hier, je crois, le deuxième concert. Week-end. Merci infiniment à tous les deux. Marc Tonon, directeur général du Bureau Export de la Musique, et Olivier Pellerin, journaliste musical, co-auteur du rapport sur les musiques électroniques pour la SACEM. Merci à Maxime Moreau et à Mathieu Dartigenave qui m'ont aidé également à préparer cette émission. Merci Marc Tonon d'avoir été notre invité ce soir. Soft Power dans un instant, ça continue. La seconde partie de cette émission avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Nous parlerons ce soir de Julian Assange avec Amazon. Armel Guiton de Libération et Elliot Lepers, fondateur de l'ONG, le mouvement .ONG. Et dans un instant à 20h, Zoé Sfès, votre invité innovation est Thierry Volton.
Pour le négationnisme de gauche, un ouvrage qu'il publie chez Grasset.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout cela à suivre et à partir de 20h. Voilà, il est 20h.
Il est 20h et peut-être que du coup j'ai cru qu'on allait écouter encore de la musique.
Mais oui,
Frédéric
on devait
Martel,
écouter Sammy Thiebaud, c'est ce que je voulais
voilà,
dire.
Ça y
Pierre,
est, il est parti.
Puerto Rican Folk Song, en l'occurrence c'est la Musikmesse de Francfort, plus grand salon d'Europe qui est dédié à l'industrie de la musique, a décerné il y a quelques semaines son célèbre prix Frankfurter Music Press 2009 au Quatuor Eben. Les quatre Français qui comptent dans la musique. Instant, Sammy Thiebaud, Puerto Rican Folk Song, c'est du jazz. On avait promis de passer différents genres ce soir musicaux. Après, il y a beaucoup de musique électro, mais aussi de la musique classique, aussi de la variété avec Bernard Lavillier dans une version moderne.
Nous sommes pluralistes, Frédéric.
Voilà, exactement, qui était accompagné, je l'ai dit, du Quatuor Eben à l'instant. Donc, du jazz pour terminer cette première partie d'émission, c'était Sammy Thiebaud.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Thierry Volton.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes journaliste, essayiste, vous travaillez depuis plusieurs années sur le communisme et plus spécifiquement sur les crimes des différents régimes qui ont adopté cette idéologie au cours du XXe siècle. Alors vous avez publié près d'une quinzaine d'ouvrages, même plus je crois, dont en 93 un assez controversé grand retournement qui vous a valu... qui vous a valu à l'époque des conflits assez importants avec certains historiens comme Antoine Prost et Pierre Vidal. Puis vous avez eu, et c'est peut-être vos travaux les plus importants, une trilogie, une histoire mondiale du communisme qui est parue entre 2015 et 2017. Trilogie, les bourreaux, les victimes, les complices, qui vous a valu plusieurs prix, dont le prix Yann Michalski de la littérature. Et vous publiez, eh bien écoutez, en ce début du mois d'avril aux éditions Grasset, un ouvrage qui s'appelle Le négationnisme de gauche, qui s'inscrit en fait dans la droite ligne de ce travail de plusieurs années. Alors ce négationnisme de gauche, pour vous, il consiste en fait finalement à nier deux types de crimes contre l'humanité et vous expliquez parfois que l'un mène à l'autre. De quoi vous parlez concrètement quand vous parlez de négationnisme de gauche? Alors, de qui s'agit-il?
D'abord, il faut définir ce que c'est que le négationnisme. C'est la négation des faits qui sont avérés, reconnus par tout le monde. Ce n'est pas du révisionnisme. C'est très important de faire des essais. Parce qu'on peut discuter sur l'histoire, on peut être pas d'accord sur l'interprétation, etc. Bon, mais là, le négationnisme, c'est la négation des faits. Alors,
et c'est la négation, théoriquement, on l'utilise ce terme-là, c'est la négation de crimes contre l'humanité. Et en général, on l'utilise spécifiquement
absolument.
Pour ça.
Absolument. Bon, ce mot est apparu au moment des négationnistes, des gens qui niaient les chambres à gaz, par exemple. Bon, il peut être étendu aux gens qui nient le génocide des Rwanda, par exemple, ou l'Arménie, par exemple. La Turquie, dans sa position par rapport au génocide arménien, a une position négationniste. D'accord ? C'est ça, le négationnisme. Donc, il y a effectivement un certain courant, qui est assez important d'ailleurs, qui est soit de nier l'importance du crime, soit de l'expliquer d'une façon, alors en dehors de l'interprétation, si je puis dire, d'une façon fausse, compte tenu des documents qu'on dispose, etc. Bon, ça, si vous voulez, c'est vraiment, en ce qui concerne les crimes communistes, c'est vraiment ce qui est assez fréquent et assez c'est plus fréquent quasiment que le négationnisme de droite. On simplifie, hein, droite gauche, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente, mais enfin bon, pour simplifier, pour ceux qui éventuellement nieraient les chambres à gaz ou qui pourraient dire que les crimes nazis après tout c'était pas si important que ça. Voilà. Donc ce courant négationniste de gauche de fait est plus important parce que en vérité tout simplement c'est un héritage évidemment de l'aveuglement que nous avons eu, que je dis nous, tout le monde, parce que c'est très très large, que nous avons eu vis-à-vis du socialisme réel, comme on l'a appelé, au XXe siècle. Donc finalement, c'est l'héritage de ça.
Alors ça, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y a des gens qui continuent encore aujourd'hui de nier, ou en tout cas qu'il est plus facile de nier les crimes, par exemple, de la Russie communiste, qui la figure de Staline, pour vous, n'est pas aussi diabolisée que celle d'Hitler. Alors on pourrait en parler, mais on va en parler sur les réseaux. Et puis vous dites aussi, et ça c'est un des points de votre livre, vous dites qu'il y a une partie des gens qui minimisent les crimes de l'URSS et qui se réclament de l'extrême gauche, qui vont glisser vers un négationnisme aussi, finalement, des crimes comme par exemple celui de la Shoah.
Oui, ça, bien sûr, ça existe. Alors, parce que dans tout ça, le pont est assez spécial, si je puis dire.
Ce que vous appelez le rouge-brun.
Oui, le rouge-brun. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui cimente ça, si vous voulez, c'est l'islamisme. C'est important. Parce que
aujourd'hui ?
Oui, ouais. Aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est que vous avez une partie de l'extrême droite qui soutient l'islamisme pour des raisons raciales, dirons, hein, parce que derrière l'islamisme, il y a aussi l'ennemi de l'islam, c'est aussi le sionisme et le juif, d'accord ? C'est le courant très connu, par exemple, pour prendre un personnage connu, Dieudonné. Voilà un personnage qui est comme ça, qui est connu, qui a ce type de discours. Qui est, bon, vous avez un autre courant d'extrême gauche qui, lui, va soutenir l'islamisme, non pas par antisémitisme directement, si je puis dire, mais parce qu'ils y voient la prolongation de la lutte des classes à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'ils font un amalgame en le prolétariat qui s'est révolté, soi-disant, au XXe siècle. Et ben aujourd'hui, les pauvres qui se révoltent, ce sont les islamistes qui font du terrorisme. Donc, si vous voulez, c'est les deux, c'est ça qui est important, les deux se rejoignent. Et en vérité, le ciment de ça, si je puis dire, c'est, pour faire simple, parce qu'on a peu de temps, c'est la détestation des sociétés qu'on représente. C'est-à-dire que soit c'est parce que ces sociétés démocratiques sont irreligieuses et athées, etc., et ça c'est inadmissible, ou soit parce que ces sociétés capitalistes exploitent les hommes, etc., etc. Donc finalement, c'est ce qui fait le ciment de ces deux courants qui se retrouvent à ce moment-là, avec Israël au cœur du problème, si je puis dire. Donc Israël, c'est évidemment l'État d'Israël, mais c'est aussi l'État hébreu.
Mais alors effectivement, alors vous dites ça, et en même temps, vous rappelez dans le livre des trajectoires comme celle de Roger Garaudy, universitaire, qui est passé du communisme à clairement un négationnisme assez violent et à un vrai antisémitisme, et qui pour le coup a été effacé des livres d'histoire, je peux vous le dire, pour avoir travaillé sur Aragon, il n'existe plus dans les bibliographies. Puisqu'on est dans une case dite d'invité innovation, en quoi est-ce que vous avez une dernière partie de votre livre qui prédit un avenir radieux à ce négationnisme et à ces négationnismes? Comment est-ce que vous avez l'impression que sur Internet, il s'exprime ces négationnismes aujourd'hui, en particulier celui dont vous parlez, sur un négationnisme qui consisterait à nier notamment les tragédies qui ont eu lieu en URSS?
Bon, d'abord, c'est le rapport que l'on a à ces tragédies qui est différent, si je puis dire. Alors, vous avez d'abord, prenons un cas très simple, vous allez sur Amazon, hein, pour le citer, ou sur n'importe quel site commerçant, vous faites un signe communiste et vous trouvez des t-shirts avec la fusil et le marteau, vous avez même des t-shirts KGB. Je fais une petite parenthèse parce que les gens le savent pas, mais le KGB, c'est à la fois la Gestapo et les SS. C'est exactement.
Ouais.
Voilà, c'est horrible, ouais. Hein, mais ça n'empêche pas que les gens peuvent mettre un t-shirt. Bon, donc vous avez ça. Voilà. Je ne dis pas que ça n'existe pas non plus sur les insignes nazis, mais c'est interdit, comme vous le savez.
C'est interdit, hein. Mais ça existe aussi sur les.
Ça existe aussi, je suis d'accord, mais alors que là, c'est ouvertement. Bon, vous avez ça. Bon,
Est-ce qu'on peut pas introduire une distinction, parce que vous l'avez dit et c'est vrai, et ça fait partie des faits majoritaires de l'histoire du XXe siècle, les systèmes, les régimes qui ont appliqué le communisme ont, pour la plupart d'entre eux, donné lieu à de grandes tragédies, mais ça reste aussi, lire Marx, c'est pas tout à fait comme être...
Je suis d'accord, c'est tout le problème.
Lire, en tout cas, les livres d'Hitler.
Non, mais
ça tient la nature de l'idéologie.
Vous avez une idéologie qui est une idéologie d'exclusion des autres, celle du nazisme, hein. Nous sommes le peuple élu, les autres, c'est de la merde, excusez-moi l'expression, et puis vous avez une idéologie qui promet le bonheur pour tous. Mm-hmm. Donc vous avez un rapport qui est totalement différent. Sauf que le problème, c'est que la façon dont cette idéologie a été conduite tout au long du XXe siècle a conduit partout, quels que soient les régimes, quels que soient les pays, quelle que soit l'histoire, la géographie, etc., a conduit partout à des drames. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut voir ensemble. En face, alors c'est très difficile, je dois dire, c'est très difficile parce que, encore une fois, le rapport n'est pas le même. Et il y a quelques fois, on a l'impression même d'être, comment dire, on est vexé quelque part d'avoir été trompé, si vous voulez. Donc, quand on est vexé d'avoir été trompé, ben, on préfère oublier, voilà.
Thierry Volton, vous dites que le négationnisme, c'est un petit peu le ciment de la fake news. Dans une dernière partie, vous réfléchissez un petit peu à la manière dont, finalement, ce négationnisme, comme les fake news, peuvent être contrés. Vous n'êtes pas favorable, notamment, par exemple, sur ce qui peut se dire sur les réseaux, à plus de législation en la matière. Pourquoi ?
Alors, je suis contre la loi d'une façon générale. Pour régler ce type de questions, je pense que ça n'a rien réglé en ce qui concerne le négationnisme de droite, les chambres à gaz. Bon, en général, quand il y a une loi, ça fait histoire officielle, ça fait fait officiel, c'est insupportable, l'histoire doit se discuter, c'est les armes de la critique qui doivent faire ça. Ça, c'est la première chose. Bon, en ce qui concerne ce problème, évidemment, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, le négationnisme, on pourrait dire que le négationnisme est l'ancêtre du fake news, parce que quand on observe le mécanisme négationnisme, et le mécanisme négationnisme, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous avez soit la négation des faits, hein, bon, le déni, comme on dit, vous avez soit
une autre explication, une forme de justification au fait.
Voilà, une justification, soit
un relativisme.
Le relativisme, effectivement, voilà, c'est très important. Dire après tout, ah oui, bah il y a eu ce drame. Enfin, regardez l'arme. À côté, c'est un drame égal ou sinon supérieur. Donc, cette espèce de balance, bon, pour les victimes, excusez-moi, les balances, ça veut rien dire. Elles sont mortes. Bon, c'est vraiment des querelles de vivants, si je puis dire. Bon, donc, vous avez ce type de... Vous avez des démarches qui sont très similaires, de part et d'autre, si vous voulez, qui fait que, finalement, c'est pour ça qu'il est important de lutter sur le terrain d'histoire. Parce que le terrain d'histoire, à la différence du terrain des fake news, c'est qu'il repose sur des faits qui existent, qui ont existé, qui... Les fake news, c'est des faits qui viennent de se passer à la minute. C'est l'actualité, si je puis dire. Elle n'est pas enracinée. Donc, si vous démontez les mécanismes de négationnisme dans l'histoire, vous arriverez à démonter plus facilement les fake news d'aujourd'hui.
Et en même temps, vous rappelez dans votre conclusion, Thierry Volton, que c'est compliqué de laisser ça aussi aux grands entrepreneurs du web, comme des GAFA, comme Mark Zuckerberg, qui à la fois promeut la défense des fake news, mais évidemment drague toujours un peu les Chinois, qui n'arrivent pas à avoir sur son réseau. Thierry Volton, votre livre, Le négationnisme de gauche, voilà, il faut avec un œil averti, Paris aux éditions Grasset, c'était le 10 avril dernier, merci.
Tout récemment donc, Zoé.
Tout récemment, c'était la semaine dernière, car nous sommes en direct, figurez-vous.
C'est un livre
toujours
tout rouge.
Toujours, c'est lundi de Pâche.
Il y avait une collection chez Grasset qui s'appelait, je crois, les cahiers rouges. C'est pas cette collection, mais il est quand même tout rouge. Oui. Après, pour quelqu'un qui a travaillé sur le communisme, après tout...
C'est tout le paradoxe de ce choix de couverture.
Merci Thierry Volton d'avoir été avec nous ce soir, 20h12 sur France Culture.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, on parle ce soir de Julian Assange et nous sommes pour évoquer ce personnage et ce qui s'est passé tout récemment, pour en débattre avec deux invités, Amal Guiton de Libération et Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG.
Bonsoir à tous les deux.
On peut peut-être commencer avec vous, Amal Guiton, peut-être pour un rappel des événements. D'abord, qui est Julian Assange, toute l'affaire Wikileaks et plus précisément ce qui s'est passé à Londres il y a maintenant une dizaine de jours.
Alors, c'est vrai qu'Assange, on a l'impression que effectivement tout le monde le connaît aujourd'hui parce que c'est devenu une célébrité planétaire à partir de 2010, hein, essentiellement. Il a eu une vie avant, il est né en 71 en Australie, il a eu une enfance assez compliquée, assez chaotique. La première partie de sa vie qui est bien documentée, c'est dans les années 90 quand il participe notamment à un collectif de hackers australiens qui s'appelle The International Subversives. Ça a fait notamment l'objet d'un bouquin que je conseille, hein, parce qu'il est passionnant, qui s'appelle Underground, signé par une journaliste américaine, Suellette Dreyfus. Et puis alors effectivement, en 2006, c'est la création de Wikileaks qui se fait, on va dire, doucement connaître effectivement à partir de cette période. Par exemple, avec des documents qui dévoilent des détournements de fonds au Kenya, des choses comme ça. Mais vraiment, le moment où ça émerge à une échelle absolument planétaire, ouais, c'est l'année 2010, avec coup sur coup au printemps, cette fameuse vidéo qui montre en fait un hélicoptère américain à Bagdad tirant sur des civils et deux photographes de l'agence Reuters. Hein, c'est la fameuse vidéo qui a été appelée Collateral Damage, donc dommage collatéral. En juillet 2010, c'est les documents secrets sur la guerre d'Afghanistan transmis par Chelsea Manning. En octobre, c'est ceux sur la guerre d'Irak. Et puis en novembre 2010, ce sont tous les ce qu'on appelle les télégrammes diplomatiques, hein, les câbles de la diplomatie américaine. Donc il y a comme ça cette espèce de succession en 2010 qui à la fois le rend célèbre parce qu'il est la figure publique de WikiLeaks, il est celui qui apparaît partout et en même temps engage cette espèce d'épreuve de force avec les États-Unis, dont finalement ce qui s'est produit la semaine dernière est on va dire l'épilogue provisoire, hein, avec cette arrestation dans l'ambassade d'Équateur à l'invitation d'ailleurs de l'Équateur, hein, si on comprend bien, et la demande d'extradition américaine qui porte précisément sur les documents de 2010, en fait.
Alors, documents dont on dit qu'ils ont pu, le cas échéant, mettre en danger la vie de diplomates ou même d'agents secrets américains. C'est une des éléments qui contribuent, au-delà de l'information, à faire en sorte que la justice américaine veut le punir.
Alors pour le coup, il y a toujours effectivement eu un débat sur la question du caviardage des documents. Moi, dans mes souvenirs vraiment, hein, tout ce qui avait été publié en 2010 à l'époque où d'ailleurs WikiLeaks travaillait avec ses grands quotidiens, c'était le Guardian, c'était le Washington Post, le New York Times, le Monde en France, etc. Les noms étaient enlevés. Alors il y a eu à un moment donné effectivement une publication où manifestement le nettoyage avait été mal fait, ce qui a effectivement créé beaucoup de débats. Ceci étant, ce pourquoi la justice américaine veut l'extrader aujourd'hui, c'est formellement en tout cas pour avoir proposé à Chelsea Manning de l'aider à craquer un mot de passe pour pouvoir avoir accès à un serveur en particulier, mais postérieurement par ailleurs à l'envoi des premiers documents. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui a déclenché ce n'est pas ça qui a déclenché les publications de 2010 en tout cas, mais disons que c'est sur cette partie-là très précise que porte la demande d'extradition aujourd'hui, enfin que portent les charges en tout cas.
Elliot Lepers.
Il y a un parallèle intéressant avec Edward Snowden, qui est un autre lanceur d'alerte, qui est lui poursuivi pour des accusations d'espionnage et qui lui a fait le choix de ne pas publier en son nom, ne pas publier lui-même les documents.
Et donc, qu'il fait avec Glenn Greenwald
et Laura Poitras, effectivement. Ouais. Et donc il a volontairement, avec le précédent Assange qui était derrière, choisi de ne pas être celui qui divulgue, mais plutôt d'informer des journalistes et donc de passer par le filtre de la déontologie journalistique.
Finalement, sorti dans le Guardian, hein, donc.
Exactement, ouais.
Alors, si on compare déjà, et on peut repartir sur ça, si on compare les trois figures, enfin, il y en a d'autres, mais si on prend Julian Assange, Edward Snowden et Chelsea Manning, on a là trois cas qui sont quand même assez différents d'un point de vue de ce qui est diffusé, on l'a dit, mais aussi donc des risques et de la manière dont ils sont soutenus par la communauté, je dirais, médiatique à travers le monde.
Bah, disons que Manning comme Snowden sont véritablement des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui appartiennent de l'intérieur d'une institution, et en l'occurrence, dans un cas, de l'intérieur de l'armée américaine et dans l'autre, de l'intérieur de la NSA, même si c'est un peu compliqué parce que, justement, Snowden travaillait pour une entreprise privée, il était contractant, entre guillemets, de la NSA, mais en tout cas des gens de l'intérieur qui estiment être face à une violation des droits fondamentaux et qui décident de faire sortir l'information. La position d'Assange, elle est différente, elle est d'ailleurs très originale, puisque en réalité, WikiLeaks est apparu comme une forme d'intermédiaire au tout début entre les lanceurs d'alerte qui transmettent les documents et les grands médias qui travaillaient avec WikiLeaks. WikiLeaks joue effectivement ce rôle un peu d'interface. Ceci étant, WikiLeaks publie des documents, c'est-à-dire que la position d'Assange aujourd'hui, et ce d'ailleurs pourquoi son cas est assez compliqué et a posé question à l'administration Obama avant l'administration Trump, c'est qu'il est à valeur faciale, entre guillemets, un éditeur. Donc ça, c'est pour sa position dans l'écosystème journalistique, parce qu'il publie des documents. Et le risque, c'est, en lui reprochant à lui de publier des documents, de finalement créer un précédent juridique qui pourrait impacter les médias traditionnels.
En général.
Et alors après, effectivement, il y a l'aspect plus personnel d'une personne qui est complexe à tout le moins, avec des zones d'ombre. Il y a ces accusations de violence sexuelle en Suède, etc. Et puis il y a évidemment la séquence de la présidentielle américaine
et équatorienne, puisqu'au fond on va avoir les deux problèmes. Alors sur ça, Elliot Lepers, on en est où entre Trump, Lénine Moreno et le nouveau président équatorien qui vient de le déchoir, hein, en avril de sa nationalité équatorienne, qui avait été obtenue l'année précédente, et qui met fin tout d'un coup à son droit d'asile. La police britannique est alors invitée à pénétrer dans l'ambassade équatorienne, où il est arrêté. Les États-Unis, naturellement, ont demandé immédiatement son extradition.
Oui, c'est ça, à la faveur d'un changement politique au niveau du gouvernement équatorien. Il y a eu une différence dans le traitement qui a été accordé à Julian Assange, et donc le choix de le soutenir jusque-là a complètement évolué. Et Glenn Greenwald raconte justement que depuis l'été 2018, il y a la négociation d'un accord en cours entre l'Équateur et le Royaume-Uni pour effectivement donner lieu à cette arrestation telle qu'on...
Bon, il faut dire aussi que concrètement, il ne pouvait pas rester toute sa vie dans une petite chambre d'une ambassade équatorienne à Londres.
Et ça d'ailleurs, c'est un des argument qui est aujourd'hui utilisé, qui est en train d'être très contesté par l'Équateur, en disant que le comportement d'Assange était devenu invivable.
Il était un peu dans une cage, il y avait un moment aussi où il était lui-même un peu énervé.
7 ans d'enfermement, on est de toute façon quelqu'un qui est en mauvaise condition physique, qui n'avait pas accès au traitement dont il avait besoin, et en mauvaise condition psychologique, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à la lumière du jour, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à l'air.
Donc il était déjà en prison d'une certaine manière depuis 7 ans.
Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a des rumeurs de comportement et qui seraient aujourd'hui qui sont instrumentalisés un peu par l'Équateur pour justifier.
On a montré des vidéos notamment où il n'était pas très sympathique avec les gens qui travaillaient à l'ambassade.
Qui sont contestés par d'autres personnes qui ont pu lui rendre visite régulièrement et donc qui a justifié un peu qu'on le sorte de l'ambassade.
Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur Assange? Personnalisation, on a évoqué les accusations de violence sexuelle. Qui c'est précisément? Figure aussi très anarchiste d'une certaine manière, qui pense que tout doit sortir, quel que soit le document, il n'y a pas de limite. Chose que un certain nombre de journalistes, y compris parmi nous, ne défendent pas forcément. Moi j'ai eu accès à de nombreux télégrammes diplomatiques par exemple, dans une affaire récente, je ne les publie pas. Parce que c'est interdit et parce qu'on considère que ça peut être utilisé comme information, ça nous permet d'écrire une histoire, on les a, on connaît ses sources, ça peut permettre en cas de procès de pouvoir les fournir, les divulguer pour prouver qu'on a des faits, mais on ne les publie pas. Là, lui, il publie tout. Au fond, il n'y a pas de document secret, il n'y a pas de service secret, tout doit sortir.
Moi, je suis convaincue que pour vraiment comprendre Assange, il faut d'abord relire les textes qu'il a écrits en 2006, juste avant de lancer Wikileaks. Et par ailleurs, il y a un autre document qui est extrêmement intéressant, c'est Eric Schmidt, qui était à l'époque patron de Google, lui rend visite en 2010, au moment où il est encore assigné à résidence et où il est dans ce manoir dans la campagne londonienne, et ils ont une très longue conversation dont la transcription a été intégralement publiée sur le site de Wikileaks, et c'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'on comprend effectivement sa manière de fonctionner. Il y a vraiment l'idée de transparence radicale, c'est très clair. Il y a l'idée que de Wikileaks comme système qui évacue la question de la source, ça c'est compliqué à appréhender pour un journaliste, mais en tout cas c'est très intéressant effectivement de voir que lui considère que la seule question qui vaille, c'est l'intérêt public du document. La source n'a aucune importance, ce qui peut par ailleurs expliquer aussi des choses plus récentes. Et Wikileaks, en tout cas dans sa partie technique, comme système de soumission de documents confidentiels, consiste précisément à évacuer la question de la source. Et il y a aussi l'idée de la transparence radicale comme outil de moralisation des pouvoirs. Il y a un côté, effectivement, je sais pas si je voulais être un peu vulgaire, ce serait tout est bon dans le cochon. C'est-à-dire à partir du moment où on a des éléments, on les met sur la place publique, on force les pouvoirs à plus de transparence. Alors effectivement, là où c'est intéressant, c'est quand on relit notamment la séquence de la présidence américaine, on est à la fois dans une forme de continuité de ça. Moi, pour le coup, il y a quand même une ligne directrice. Et puis aussi dans, effectivement, une vision du monde qui a évolué à la fois à cause de l'Internet, sa captivité et de son affrontement avec les États-Unis, qui est une vision, effectivement, d'un anti-impérialisme poussé à l'extrême, où ça devient camp contre camp, et où en fait l'ennemi principal c'est vraiment les États-Unis. On ne se pose d'ailleurs pas la question d'autres impérialismes,
notamment
dans
des Russes,
vision,
oui,
du monde.
Ouais.
Voilà. Et donc c'est à mon sens aussi en grande partie ce qui explique les positions qu'il a prises à l'époque.
Eliot de Perse, on peut dire qu'il y a des dérives de Wikileaks.
il y a des dérives de Wikileaks dans la mesure où il y a une énorme personnalisation de Wikileaks. C'est-à-dire que Wikileaks, c'est Julian Assange. Et c'est peut-être ça la principale erreur, c'est que du coup, ça devient quasiment impossible de défendre Wikileaks parce que si on ne défend pas Julian Assange, quoi. Et donc, il a emmené Wikileaks avec lui dans sa dérive. Aujourd'hui, moi, je pense que Julian Assange doit être protégé en tant que lanceur d'alerte et pour ce qu'il a permis d'apporter. Il faut qu'il puisse avoir droit à un jugement équitable. En revanche, il faut qu'il puisse aussi répondre des accusations de viol, telles que c'est caractérisé dans le droit suédois.
Donc, en Suède.
Il a forcé une femme. Les accusations sont sur l'idée qu'il aurait forcé une femme à avoir des relations sexuelles alors qu'elle était endormie et sans préservatif. Et donc ça, c'est considéré, l'absence de préservatif est considérée comme un viol en Suède. Et donc, effectivement, il faut qu'il puisse répondre de ça devant les tribunaux suédois. Le problème aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la raison de son choix de rester enfermé à Londres, c'est qu'il ne considérait pas qu'il pouvait avoir accès à un jugement équitable. Et donc, il a fait le choix de se soustraire à la justice. Et ça, c'est problématique. On ne peut pas décider soi-même de se soustraire à la justice. Donc, il est indispensable qu'on crée un statut qui puisse garantir qu'il ne sera pas extradé à la faveur de ce jugement-là vers les États-Unis pour répondre d'autres accusations, mais qu'il puisse quand même aller répondre de ces accusations de viol.
Zoé Sfez.
Mais justement, il y a les accusations de tuer en vol, et puis il y a aussi, effectivement, vous l'avez dit, toute cette culture de Wikileaks avec des jeunes femmes qui sont extrêmement impliquées dans la vie et la défense de Julian Assange. Mais au-delà de ça, une question peut-être ouverte et qui n'est peut-être même pas réelle, mais est-ce que Wikileaks pourrait survivre sans Julian Assange? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que ça a quand même fédéré des réflexions? Il y a des gens qui participent à Wikileaks. Est-ce que selon vous, la chute de Julian Assange pourrait...
C'est très compliqué d'envisager Wikileaks sans Assange pour une raison assez simple, c'est qu'il en est effectivement l'architecte intellectuel, il en est le fil à plomb. Et j'ai tendance à penser, même si c'est très opaque, hein, pour des tas de raisons, que Wikileaks c'est aussi rétracté d'une certaine manière. C'est-à-dire, je sais pas aujourd'hui combien de gens sont investis, mais j'ai tendance à penser que ça avait une aura dans les années 2010 qui était différente. Ceci étant, il faut pas oublier non plus que Wikileaks a un héritage. C'est-à-dire que avant, très peu de médias publiaient des documents, les documents d'origine. C'est devenu beaucoup plus fréquent aujourd'hui. Beaucoup de médias ont aujourd'hui des plateformes de soumission de documents confidentiels qu'on ne peut pas comprendre sans Wikileaks, et on ne peut pas comprendre non plus les consortiums de journalistes tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, l'ICIJ, etc., sans Wikileaks. C'est-à-dire que, avec toutes les critiques qu'on peut avoir, ça a aussi ouvert des portes et ça a repoussé des limites.
Amaël Guiton, en une seconde, so what maintenant? Il y a une audience le 2 mai.
Il y a une audience le 2 mai sur la demande d'extradition américaine. Il faut savoir que en 2012 et en 2016 ou 2017, la justice britannique a refusé d'extrader des gens qui étaient justement accusés de piratage aux États-Unis à cause du risque de mauvais traitement et du risque psychologique. Donc voilà, il y a des précédents, je pense que ces avocats vont beaucoup appuyer là-dessus. La vraie question, comme le disait Elliot, c'est est-ce que la dernière enquête suédoise qui a été classée mais qui n'est pas prescrite va être ou non réouverte, auquel cas il pourrait y avoir effectivement une demande émanant de la Suède. Ça, c'est l'inconnu.
Et de Perse, dernière question pour terminer cette émission. L'enjeu derrière toute cette affaire Wikileaks et Julian Assange, c'est la protection des lanceurs d'alerte, la protection des journalistes ou un cas spécifique?
C'est avant tout ça, c'est avant tout d'imaginer des interstices où, eh bien... on peut dénoncer des agissements d'un État ou des agissements de multinationales s'ils sont contraires à l'intérêt collectif. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadre légal pour faire ça. Et donc, les personnes qui franchissent ce pas vivent un enfer et ne peuvent plus avoir accès à une...
Mais est-ce qu'on n'aurait pas aimé avoir non seulement Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, mais aussi un Assange iranien ou chinois ou vénézuélien qui permettrait de montrer qu'il y a d'autres choses à découvrir que simplement les secrets de la CIA et de la NSA aux États-Unis?
Et il y en aura sûrement. Il y en aura sûrement. C'est pour ça que nos nations doivent garantir effectivement un droit qui leur permette de s'exprimer, qui leur permette de trouver un asile pour pouvoir être entendus et pour pouvoir, effectivement, si derrière ils sont accusés, en répondre.
Merci à tous, merci infiniment.